Dans l'actualité des idées aujourd'hui, objectifs, formes et agendas différents pour des féminismes que Françoise Vergès définit comme antagonistes. D'un côté, je cite, « un féminisme blanc et universaliste qui fixerait seul le cadre des débats », de l'autre, celui qu'elle appelle de ses voeux, un féminisme révolutionnaire et décolonial qui prône une transformation profonde du monde par la lutte anticapitaliste et antiraciste. Pour un féminisme décolonial, c'est le titre de l'essai qu'elle publie aux éditions de La Fabrique. Françoise Vergès est l'invitée de la deuxième partie de notre grande table. Avant cela et en première partie, Harold Pinter fait semblant de chercher la vérité avec nous. Dans sa mise en scène de La Collection, un texte de 1961 en ce moment au Bouffe du Nord, Ludovic Lagarde souligne toute l'ambiguïté de ce texte. Il est notre premier invité.
La grande table. Marie Richelieu.
Harold Pinter, votre théâtre serait-il un théâtre de l'ambiguïté?
Well, I don't think that life is black and white. And
je ne crois pas que la vie soit noire et blanche, entièrement contrastée.
I think we live on a number of contradictory levels.
Je crois que nous vivons tous sur un nombre de niveaux contradictoires.
And we don't know everything. We do not know everything about, by any means, about what we are and why we do what we do and what happens at all.
Nous ne savons pas tout ce que nous sommes par rapport à ce que nous sommes, ce que nous faisons, etc.
I think life is quite an ambiguous matter. Really.
Je crois que la vie est en fait un problème assez ambigu.
I think the difficulty is about speaking at all for me now is that one has to fall back on words like ambiguity, which I find very pompous and academic, really.
Donc la difficulté de parler de ce genre de problème de l'ambiguïté, c'est que justement on est forcé de revenir à des mots aussi pompeux et pédants. Justement que le mot ambiguïté lui-même.
Harold Pinter au micro de Jean Chouquet en 1968. Le problème avec l'ambiguïté, c'est qu'on se retrouve à utiliser des mots ambigus pour en parler, mais peut-être que c'est ça qui est jouissif. Dans la traduction et l'adaptation d'Olivier Cadio, les dialogues de La Collection laissent en permanence planer le doute. De quoi parle-t-on en fait quand on veut une olive, un rôti, un couteau ou un journal? De quoi parle-t-il au juste les quatre personnages de la pièce et qui veut quoi à la fin? Ce pourrait être une histoire de mari jaloux qui tient vraiment à faire le jour sur une nuit que sa femme a passée dans un hôtel à Leeds, mais c'est plus sombre, plus drôle et plus compliqué que tout ça. Bonjour Ludovic Lagarde.
Bonjour.
Bienvenue, votre mise en scène de La Collection au Bouffe du Nord à Paris en ce moment se voit jusqu'au 23 mars. Elle réunit Valérie Dashwood, Mathieu Amalric, Michel Esco et Laurent Poitrenaud après avoir été jouée à Rennes, Lyon et Reims. Elle sera reprise la saison prochaine à partir de mars pour une nouvelle petite tournée en France. J'aimerais bien qu'on prenne le cadeau que nous fait cette archive d'Harold Pinter en 1968 pour parler de votre décor et de votre mise en scène. Il dit véritablement la vie n'est pas et noire et blanche, ou noire, ou blanche. Il se trouve que sur le plateau des Bouffes du Nord, on a un salon blanc immaculé et un salon un peu sombre qui mène, à ce que dit Harold Pinter, un nombre de niveaux contradictoires et mystérieux puisqu'il y a un escalier qui va, on ne sait où. Parlez-nous de ce décor et de ce choix-là. Cadeau.
Oh là là, elle est grave. Ce décor, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai ouvert la pièce. C'est ce double décor qui est évidemment passionnant pour un metteur en scène et pour un amoureux de la scénographie. Donc un petit appartement à Chelsea, début 60, donc blanc. Et puis une maison à Belgravia, donc quartier plus huppé de Londres, plus proche du pouvoir. Une maison avec un étage, donc avec un escalier. Et ça m'a évidemment beaucoup plu, cette stéréo visuelle, ce travailler ces deux espaces. Ça a été le premier déclenchement presque pour moi. J'ai tracé un trait au milieu du tas des Bouffes du Nord. Et j'ai divisé l'espace en deux en respectant l'architecture du lieu. Et à partir de là, on s'est mis à travailler et à construire dans un luxe de détails. C'est une écriture très particulière et je crois que je n'ai jamais autant travaillé les détails voilà.
On en parle de la scénographie, vous voulez dire?
Oui, de chaque chose, de chaque élément, vraiment, de manière extrêmement précise.
Parce que vous avez travaillé une sorte de symbolisme?
Non, pas de symbolisme, mais en fait, c'est évidemment complexe, Pinter, parce que ça semblerait absurde comme ça, le nonsense, la complexité, les occurrences, les versions, mais il y a quand même, de manière plus verticale, énormément de sujets abordés, entre autres des questions sociales. Même si elles sont comme ça un peu estompées a priori, c'est pas un hasard si c'est un petit appartement à Chelsea.
Et puis cette phrase qui revient tout le temps, tu viens de la zone, tu viens de la zone.
Évidemment.
Faut placer peut-être le décor, après avoir placé le décor, Ludovic Lagarde, c'est deux duos. Oui. J'utilise pas le mot couple, mais deux duos.
C'est vrai. Oui, il y a ce couple donc à Chelsea, donc Stella et James, dont Valérie Dachaud et Laurent Poitrenaud, qui sont, elle est créatrice de mode, ils ont une petit atelier, petite boutique, enfin voilà, donc c'est assez modeste mais en même temps créatif. On imagine ça début 60 à Chelsea, et puis chez Harry, alors chez Harry on est plutôt du côté de Berger Saint-Laurent, c'est-à-dire une sorte de comme ça de mécène, ça sent l'argent, la proximité du pouvoir, et puis un créateur qui vit chez lui et qui est un créateur à la mode pour le coup, célèbre a priori, et donc c'est ça, ces deux duos, donc une femme, un homme, deux hommes, hein, et puis voilà, et puis Stella aurait dit, parce qu'on ne saura jamais ce qu'elle a vraiment dit à son mari, elle aurait dit qu'une nuit à Leeds, lors d'un salon de mode, il se serait passé quelque chose donc avec un jeune homme, James, et à partir de là, le mari, Bill, pardon, James va mener l'enquête, et donc ça va le conduire chez Harry, et ainsi de suite, et là va commencer ce troublant scénario.
Où tout le monde pose des questions à tout le monde sur ce qui se serait passé, ce qui se serait dit, ce qui se serait dit de ce qui s'est passé. Et on commence à tourner comme ça, comme dans une spirale de récits. Mais Ludovic Lagarde, vous dites, je me suis jamais autant attaché aux détails. Et, et auparavant, vous dites, pour un amoureux de la scénographie, et on sent ça dès le départ, en fait, dès l'ouverture de la pièce, que quelque chose relève du discours dans le décor qu'on a en face de nous. Alors qu'est-ce que c'est que ce discours-là, qui est une sorte de discours parallèle à celui de la pièce?
Je ne sais pas s'il est parallèle, mais c'est vrai qu'avec Antoine Vasseur, le scénographe, avec Éric Delplat qui nous aide à choisir chaque objet, on a énormément travaillé chaque détail. Pour d'abord aussi parce que il y a beaucoup de pièges dans cette écriture. C'est pas un hasard si, par exemple, Pinter est très peu joué dans le théâtre subventionné, le théâtre d'art, depuis une génération au moins. C'est tant joué dans le privé. Parce que cette écriture semblerait comme ça un peu anodine, ou un peu comme ça vaudevillesque, des histoires de trahison, de portes qui claquent, de maris trompés, etc. Mais évidemment, c'est pas ça. Mais simplement, ça pourrait l'être. Et donc, ce piège, il est d'abord à éviter dans la scénographie. C'est-à-dire que comment donner de l'ampleur, déjà de la fantasmagorie, de la profondeur, à un dispositif. Et donc c'est pour ça que ce premier geste, il est si important. Parce que sinon, on va mettre les acteurs en difficulté. Déjà, l'équilibre est très ténu, il faut le trouver, entre vérité, forme d'écriture, entre, voilà. Et puis, parce que, je voulais venir à ça, détail, parce que, si Olivier Cadieux nous entend, c'est des conversations qu'on a beaucoup, la littérature, c'est beaucoup de détails. Or, c'est d'abord du détail, d'une certaine manière. Or, là, il y a de l'écriture. Et quand j'ai découvert cette pièce, c'est des petits dialogues, hein. C'est très ténu, cette manière, l'écriture, avec beaucoup d'indications de Pinter, et ça pourrait sembler pas être de l'écriture au sens de la langue. Enfin, j'écoutais Didier Sand dans votre émission cette semaine qui parlait de la langue, de l'écriture comme langue, mais c'est pas que la langue, l'écriture, et en particulier l'écriture pour le théâtre. Ça fait littérature, Pinter, dans ce mélange d'indications, de dialogues, de situations, et donc l'espace, c'est si important pour recevoir ça, déjà.
Quand vous dites, ça pourrait presque être conversationnel, si on donne une petite idée de ce qui se dit, c'est vraiment, passe-moi le journal, est-ce qu'il y a une olive, est-ce que tu veux boire quelque chose, est-ce que tu as bien dormi, je monte à l'étage. Donc en effet, si c'est très à plat,
c'est ça.
À la première lecture du texte, est-ce qu'on est en mesure de sentir tout le mystère, la drôlerie, l'inquiétude aussi, que génère la pièce quand on est spectateur de votre mise en scène, Ludovic Lagarde? Quand même?
Moi, quand j'ai lu la pièce, j'ai encore une fois, j'ai senti l'écriture, enfin la totalité du projet de Pinter, mais je ne savais pas à quel point. Mais ça, c'est les acteurs qui le donnent. Et il faut penser que Pinter était un grand écrivain, mais aussi d'abord un acteur. Et il est, c'est troublant à quel point il nous fait tous travailler. Et ça passe par le jeu. Et tout le travail jubilatoire avec les quatre merveilleux comédiens qui sont sur le plateau a été d'essayer de trouver cet équilibre entre vérité et forme. Et d'ailleurs, véracité, naturalisme, on est passé par des tas d'états, enfin cinématographiques, de vérité des personnages. Et en même temps, à chaque fois qu'on se posait la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire, il n'y avait jamais qu'une seule réponse. C'est une flopée de réponses.
Et alors, vous leur disiez quoi, Mathieu Amalric, Poitrenaud, Dashwood?
Je leur disais rien, on discutait. On parlait et on évoquait ça justement, et que on se rendait compte dans le travail que dès qu'on voulait fermer un sens, dès qu'on voulait donner une réponse, le texte se vengeait immédiatement et ça ne fonctionnait pas. Donc il fallait à la fois donner de la vérité à chaque situation, à chaque moment, à chaque personnage, et en même temps laisser les choses le plus ouvertes possible quant à l'interprétation. Donc au fond, eux-mêmes, d'une manière, c'est un vertige, puisque même chaque soir quand ils le jouent, ils découvrent de nouveaux sens, de nouvelles sensations, et ils laissent ouvert énormément de choses, et ce qui permet aussi aux spectateurs de faire le même travail. Et donc il y a, je crois que plus que jamais, moi je crois vraiment à ça pour le théâtre, c'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, quel que soit finalement le texte que j'aborde, je pense que le rôle du spectateur est fondamental. Nous ne devons faire qu'une partie du travail. Et là, en l'occurrence, c'est là où Pinter est un grand auteur, c'est qu'il ne fait effectivement qu'une partie du travail. Les acteurs vont faire une autre partie du travail, mais le spectateur va faire le reste, et c'est vraiment chaque soir, cette petite assemblée qui se réunit, qui édifie quelque chose.
La semaine dernière à Leeds, quand vous y étiez avec ma femme...
Encore ? Oh, pitié ! Je croyais que tout ça était loin derrière nous. C'est pas encore fini, non ? Ça vous préoccupe encore ?
Non, une pointe de nostalgie, c'est tout.
Dès qu'on connaît la vérité, la blessure se guérit. C'est sûr ? Je veux dire, dès que la vérité est bien établie, tout s'arrange.
C'est certain.
Alors à quoi bon ressasser ? La chose a été regrettée et ne se reproduira pas. Plus de passé et pas d'avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez, vous êtes un gars, marié depuis 2 ans. Vous êtes heureux, non ? Avec votre femme ? Votre relation est inoxydable. C'est pas une chose aussi insignifiante qui pourrait l'abîmer comme ça. Je me suis excusé, elle s'est excusée. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Rien.
Toutes les femmes sont destinées à avoir un jour ou l'autre une explosion de très grande sensualité. C'est mon idée, en tout cas. C'est leur nature. Un type de sensualité, d'ailleurs, dont vous n'avez peut-être jamais été le bénéficiaire. C'est le destin des maris, il semblerait. Mais vous savez, je pense que c'est pas de votre faute. C'est tout ce système qui va pas. Elle aura peut-être jamais envie de recommencer. Qui sait ?
Ce qui est délicieux dans ce rire à deux entre Laurent Poitrenaud et Michel Escaut, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi ils rient, on ne sait pas exactement si on doit rire avec eux, on ne sait pas exactement si c'est un véritable rire ou c'est une défense absolue à propos de ce qu'ils sont en train de raconter. C'est un extrait de votre mise en scène de la collection d'Harold Pinter en ce moment au Bouffe du Nord, pardon, à Paris. Est-ce que vous avez eu besoin de savoir, Ludovic Lagarde, de savoir ce qui se tramait entre ces quatre personnages ? En gros, est-ce que vous avez, vous aussi, poursuivi, comme le font les personnages, une forme de vérité ?
Oui, mais pas forcément une vérité psychologique linéaire qui va d'un point à un autre. C'est comme des paradigmes. Il y a une lecture horizontale de l'intrigue, et puis ensuite, il y a des paradigmes. Il y a une vision verticale où on peut, dans chaque moment, chaque scène, au fond, compiler des choses que Pinter veut nous raconter à travers ça. Parce que là, par exemple, dans cet extrait, on pourrait dire effectivement, il y a une sorte de légèreté de Bill qui dit voilà, il y a une vérité. Dès qu'elle est dite, finalement, voilà, il y a pas de passé.
Que vous ayez couché ou non avec cette.
C'est ça, peu importe. Mais ça peut être aussi entendu de manière très glaçante, et en particulier aujourd'hui. C'est ça qui m'a aussi intéressé dans la pièce. aujourd'hui. C'est qu'il y a dans ce personnage de Bill quelque chose du disséminateur de fausses vérités aussi. Hein, il y a du bullshit, du fake news, il y a tout ça derrière, quand même. Et ce qui est dit d'ailleurs à la fin, dans ce grand moment de Harry qui parle de Bill comme une limace, qui s'amuse justement à polluer les choses. Et donc, il y a comme ça des niveaux de compréhension à chaque fois. Alors évidemment, il faut pas tout d'un coup tirer un trait trop gros et vouloir absolument que ça signifie ça, mais il y a à chaque fois une très grande richesse de sens. Simplement, il faut en livrer une sorte de polyphonie, de polysémie à chaque fois. Et c'est ça qui va quand même nourrir le travail. Nous, on a besoin quand même de savoir un minimum de choses, même si les choses restent ouvertes. Les olives, par exemple, il y a des interprétations.
Quand vous parlez d'un venin ou d'une limace de cette de ce faux, de ces mensonges ou de ces différentes versions, si on est plus doux avec ce qu'ils se racontent les uns les autres, on peut aussi considérer que c'est leur jouissance à toutes et à tous sur ce plateau-là, et qu'à chaque fois qu'une nouvelle version de cette nuit à l'hôtel est prononcée et décrite, c'est un fantasme, c'est un récit, c'est un désir de fiction. On sent aussi que c'est une chose que vous soulignez, Ludovic Lagarde, ou que Cadio ou que les comédiens soulignent, c'est-à-dire que cette pièce-là, c'est la jouissance de se raconter des histoires.
Ouais, complètement. C'est vraiment un travail sur l'imagination même qui est et sur le théâtre, du coup, et de cette possibilité d'imagination permanente sur un plateau. D'ailleurs, à la fin, c'est comme ça que ça se termine, puisque Bill dit,
mais on ne sait rien. C'est la vérité, n'est-ce pas?
Oui, mais on ne s'est rien passé, on a fait que parler. Et donc, c'est bien ça l'idée. Alors après, ce qui était vraiment passionnant, c'est de voir, plus de 50 ans après, où on en est de cette question de l'imagination. C'est-à-dire qu'au moment où Pinter écrit, il n'y a que la cabine téléphonique, il y a le téléphone, c'est avant, finalement, notre monde numérique d'aujourd'hui.
L'intrusion, c'est quelqu'un qui toque à la porte et qui met le pied. Exact. On peut considérer qu'aujourd'hui, l'intrusion prend d'autres formes.
Exactement. Qu'à partir de bribes de récits, tout d'un coup, à travers un coup de fil, on peut deviner un certain nombre de choses qui s'est passé. Donc, l'imagination est vraiment au pouvoir. Elle est jubilatoire, mais elle est inquiétante, elle est théâtre. Mais, et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons nous observer, nous voir, à penser pouvoir tout connaître en temps réel, on en sait encore moins, c'est encore plus obstrué d'une certaine manière, les théories du complot, encore une fois, le n'importe quoi, d'une certaine manière, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, et donc c'est intéressant de voir ce qui reste aujourd'hui de tout ça, et ça permet de faire un point, mine de rien, avec tout ça aujourd'hui.
On entendait ces deux hommes qui devisaient sur oui ou non, est-ce que cette femme a passé une nuit dans cet hôtel, et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la place de cette femme-là? De ce qu'elle dit, de ce qu'elle veut? C'est celle qui parle le moins, c'est celle qui presque danse le plus, d'une certaine manière, discrètement, Ludovic Lagarde. Qu'est-ce que vous lui donnez comme place dans votre mise en scène?
Mais justement, je me suis fait la réflexion hier encore qu'elle est absolument centrale. Et que c'est tout le paradoxe de la pièce. Elle a beaucoup moins de texte, peu de scènes, elle dit beaucoup moins, elle est très présente en même temps, et c'est elle qui déclenche, enfin qui déclencherait tout, le délire des hommes, d'une certaine manière. Et la déstructuration de tout ça, la désocialisation qui est à l'œuvre dans la pièce au fur et à mesure qu'elle avance, et elle est au cœur. Alors évidemment, on pourrait considérer que c'est presque trop de silence aujourd'hui, plus de 50 ans après, est-ce qu'on peut encore écrire une pièce où une femme...
Ça dépend, le silence parfois est un grand pouvoir.
Absolument, mais c'est une question. Mais simplement, effectivement, elle est au... Enfin, je veux dire, voilà, elle, c'est elle qui déclenche tout.
On peut considérer qu'elle a le pouvoir du secret.
Mais complètement, et c'est comme ça que ça se termine. Elle est c'est une énigme absolue.
De même que le désir qui unit ce couple-là dans une maison cossue et un escalier qui va vers, on ne sait pas, des étages, et d'ailleurs des hommes qui se suivent dans ces étages et on ne sait pas ce qu'ils y font. Le désir homosexuel, il n'est pas complètement prononcé, mais vous jouez énormément avec Ludovic Lagarde. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà très présent dans le texte en 1961?
Alors il est présent, mais évidemment... il est non-dit aussi, c'est-à-dire qu'on vit. C'est encore une Angleterre puritaine. Il y a encore une loi qui interdit l'homosexualité en Angleterre au moment où Pinter écrit, qui a été abrogée après. Donc effectivement, Pinter le met en scène clairement et en même temps ne le dit pas. Là, nous, on le joue. Ça, c'était clair avec Mathieu, avec Micha. Enfin, voilà, on ne peut pas ne pas le jouer aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça. Ils le font merveilleusement, d'ailleurs, je trouve. Après, il y a quelque chose qui est passionnant aussi avec le narcissisme, avec la reconnaissance des hommes entre eux. Il est clair que quand James arrive chez Bill et dans cette maison d'hommes et se regarde dans un miroir avec Bill. Enfin, voilà, il y a toutes ces histoires narcissiques. Enfin, il y a, voilà, c'est très profond de ce point de vue-là.
Et du point de vue des masques, Ludovic Lagarde, puisque les masques circulent, ils sont le nom de quoi, ces masques que portent de temps en temps les hommes ou la femme?
Moi, c'est une intuition que j'ai eue dès le départ, bizarrement, en lisant le texte. J'avais la sensation que, vous savez, ça me faisait penser un peu aux comics américains, à Batman, Superman. C'est aussi parce que il a une manière d'écrire Pinter, en fait, extrêmement... Il dessine, il esquisse les personnages uniquement par des dialogues comme ça, ténus. Il n'y a aucune description. Et donc, il semble manquer quelque chose de cette manière. Et tout de suite, l'idée d'un masque comme... Non, je parlais des comics parce que souvent, ces êtres dans les... Voilà, Superman, c'est quelqu'un qui est assez névrosé, qui s'ennuie un peu et qui d'un coup se transforme. Et donc, il y a tout d'un coup, de manière virtuelle, une puissance fantasmatique énorme. Et puis, petit à petit, on a travaillé comme ça. Et j'ai eu besoin, enfin, vraiment, de figurer un espace onirique, un ailleurs fantasmé... qui dit à la fois... Alors, le masque est aussi dans le texte. À un moment donné, c'est Harry, le personnage que joue Mathieu, qui parle d'un personnage masqué. C'est un moment, d'ailleurs, très étonnant dans l'écriture même de la pièce. Et voilà. Donc ça, on a développé ça. Alors, voilà, ça permet de construire cet ailleurs.
France Culture, La Grande Table, Marie Richeux.
Une dame anglaise a donc écrit à Harold Pinter. Je vous serai très obligé de bien vouloir m'expliquer le sens de votre pièce d'anniversaire. Voici les points que je ne comprends pas. Premièrement, qui sont ces deux hommes? Il s'agit de Marielle et de Fresson, vous allez les reconnaître. Deuxièmement, d'où vient Stanley? Il s'agit du personnage que joue Michel Bouquet. Troisièmement, sont-ils supposés normaux? Vous comprendrez, j'espère, que sans ces réponses, je ne peux comprendre votre pièce entièrement. Réponse de Pinter. Chère madame, je vous serais très obligé de bien vouloir m'expliquer le sens de votre lettre. Voici les trois points que je ne comprends pas. Premièrement, qui êtes-vous? Deuxièmement, d'où venez-vous? Troisièmement, êtes-vous supposé normal? Vous comprendrez, j'espère, que sans ces réponses, je ne peux comprendre votre lettre entièrement.
Et on est toujours en 1968, je ne sais pas exactement dans quel cadre, Claude Régis fait lecture d'une lettre d'une dame anglaise adressée à Pinter. Mais ce qui est intéressant, Ludovic Lagarde, c'est que ça montre le désir de compréhension. Ici, du public, mais en fait, de tout le monde. Tout à l'heure, vous parliez de la fake news. Alors, il y a un désir légitime, on peut considérer de vérité. Et puis, il y a un désir de dévoilement. Je pense aussi à une récente mise en scène que vous avez faite de l'Avare de Molière, où la question de qui est-on? Que veut-on? Que possède-t-on? À quel moment est-ce qu'on est obligé de dire le vrai sur soi était aussi au centre de votre mise en scène, dans mon souvenir, comme si le théâtre était pour vous un endroit pour déplier cette question-là.
C'est vrai. C'est vrai, et chez Pinter, j'ai trouvé... j'avais jamais abordé, moi, cet auteur, et c'est vrai que j'ai trouvé un auteur qui me convient de ce point de vue-là. Alors, est-ce que... Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans... Alors, est-ce que les origines vives de Pinter... joue, mais peut-être, c'est-à-dire quelque chose qui questionne en permanence le sens. Voilà. Il n'y a jamais une seule réponse. Il faut réinterroger les textes tout le temps. Et ça m'a absolument passionné. Là, en l'occurrence, oui. Et en même temps, avec des distinctions. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le personnage que joue Laurent, lui, cherche vraiment, croit chercher une forme de vérité. Il veut une réponse. Mais évidemment, c'est pas ça qu'il va trouver en chemin. C'est pas la réponse. Il va vivre une expérience. Bill semble s'en amuser et faire fonctionner l'imaginaire de tout le monde. Stella, elle, est plus silencieuse et a déclenché les hostilités. Et Harry, lui, est du côté du pouvoir et donc va se faire déstabiliser par cette quête comme ça et en même temps va quand même rétablir un certain ordre social. Donc, il y a à la fois, évidemment, cette cette quête, et en même temps, il y a quand même des distinctions assez fortes entre chaque personnage.
Est-ce que la fin de l'aventure à la Comédie de Reims, vous avez été à la tête de cet endroit pendant de nombreuses années, va vous permettre d'être encore plus plongé dans les textes, Ludovic Lagarde ?
C'est possible, mais je n'ai pas cessé de l'être en fait. Je sais pas, je crois que je me suis bien débrouillé, mais je crois avoir...
Vous n'avez pas été rongé par l'administration?
Non, je suis très bien entouré, Jean-Michel Hossenlop et d'autres collaborateurs m'ont beaucoup soutenu et aidé, et je crois que j'ai pu continuer à faire mon travail à la tête de cette maison. Alors là, évidemment, c'est autre chose. Il m'est arrivé là d'avoir un agenda vide, par exemple, quelques jours, juste un déjeuner.
Joie ou terrible angoisse?
Ah non, joie merveilleuse.
Ça laisse la place à quoi ?
Oui, ça laisse la place à peut-être prendre plus de temps pour m'interroger. Et après, surtout là, en ayant fait cette mise en scène qui va... voilà, quand on termine comme ça un travail, il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il faut repasser par du vide derrière.
Et vous y arrivez bien ?
Je suis en train. Je vous dirai la prochaine fois. Je sais pas.
En tout cas, en ce moment et jusqu'au 23 mars, on peut voir votre mise en scène de La Collection, un texte d'Harold Pinter, 1961. On va redire le nom des acteurs et actrices qui donnent tout le sel. Valérie Dashwood, Mathieu Amalric, Michel Esco et Laurent Poitrenaud. Merci beaucoup, Ludovic Lagarde, d'avoir été avec nous autour de cette grande table.
Merci beaucoup.